L'eau, comment la partager? Le 20 octobre dernier, Europe Écologie Les Verts organisait une rencontre publique sur le thème « L'eau, comment la partager ?». Pour animer cette rencontre qui se passait à Tulle, Amandine Dewel, élue en Corrèze, conseillère régionale écologiste de la région Nouvelle-Aquitaine, avait invité Juliette Duquesne, journaliste indépendante, autrice avec Pierre Rabhi, « L'eau que nous sommes, un élément vital en péril », édité aux presses du Châtelet, et Benoît Biteau, agriculteur et député européen écologiste, auteur de l'essai « Paysan résistant » chez Fayard. Lors d'échanges avec le public, plusieurs thèmes furent abordés. Nous vous proposons ici de réécouter quelques-uns de ceux-ci. Les agriculteurs ont besoin d'eau, beaucoup d'eau même. Alors comment leur expliquer pour qu'ils s'engagent dans un grand changement de pratique? Et comment passer à l'acte?
Oui, on voit bien que les problèmes de l'eau sont très liés aux pratiques agricoles. On voit bien que les pratiques agricoles pourraient et devraient se transformer et que c'est aussi des changements de société. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on doit parler aux agriculteurs qui travaillent actuellement et qu'on ne peut pas les mettre en accusation. Surtout, je pense, les paysans en Corrèze ne sont pas des grands de l'industrie agricole. Et comment est-ce qu'on peut faire pour... Il me semble aussi autre chose que pour avoir une agriculture, disons, plus vertueuse, pour aller vite, il faudrait plus de bras. Et comment on fait pour que des jeunes aient envie de devenir... agriculteurs, paysans, donc on veut.
C'est parce que je me suis posé toutes ces questions que je suis devenu député européen. Non mais c'est exactement les questions que je me suis posées, c'est-à-dire que moi ça fait, je l'ai dit, j'ai des cheveux blancs maintenant, ça fait 35 ans que je discute avec les agriculteurs et discuter ça sert à rien en vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné il faut leur donner des outils. Et on peut discuter avec eux, leur dire que ce serait bien de faire comme ci, comme ça, sauf que eux, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont besoin d'équilibrer le budget à la fin de l'année, et que les politiques publiques jouent un rôle important. Et donc, moi, ce que je me dis depuis longtemps, c'est qu'il faut arrêter de discuter. En plus, avec certains, c'est un moyen de gagner du temps. Et passer à l'acte. Et si on bascule les politiques publiques, c'est-à-dire que si on arrête de perfuser l'agriculture dont la société civile ne veut plus, parce que, j'insiste, c'est l'argent public. Et donc on ne peut pas, et je pense que ça c'est un biais énorme du débat, encore Ursula von der Leyen qui nous dit « je vais engager des discussions avec le monde agricole ». Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est un sujet de société. Quand on parle d'agriculture, on parle d'alimentation, on parle de climat, on parle de biodiversité, on parle de santé. On ne peut plus engager un tiers du budget total de l'Union européenne dans une discussion unilatérale avec le monde agricole. Il faut replacer cette question dans un débat de société. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça veut dire aussi que... Mais la société s'exprime. Je vous ai parlé des ICE. 8 ICE en Europe depuis que ça existe. 5 parle d'agriculture et d'alimentation. C'est vous dire si le sujet préoccupe les citoyens européens. Et donc, il va falloir discuter avec le reste de la société et pas, comme veut le faire encore la présidente de la Commission, uniquement avec le monde agricole. Et après, vous parliez de la main-d'œuvre. Vous avez raison. Comment est-ce qu'on suscite des vocations? Comment est-ce que les gens ont envie de faire le métier d'agriculteur? Ben, c'est le même sujet. C'est-à-dire que le jour où parce que les politiques publiques seront au rendez-vous et que ce sera suffisamment attractif de devenir agriculteur, que quand on devient agriculteur, on a un revenu suffisant, ben, il n'y a pas de raison que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, n'embrassent pas le métier d'agriculteur. Il n'y a pas de raison que ça ne suscite pas des vocations. Moi, j'en rencontre plein qui ont des envies de retour à la terre. Si le retour à la terre était associé à 3000 euros par mois de revenus, je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui s'intéresserait au sujet. Sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% de l'enveloppe publique bouffée par 20% des agriculteurs. Et ben, si on la répartit mieux, je vous assure qu'on est en capacité d'offrir des des rémunérations dignes aux agriculteurs, sauf que là on a 20% qui se gavent et 80% qui crèvent de faim. Je suis à peine caricatural, et donc le jour où on aura le courage de changer ça, de changer les politiques publiques qui constituent une part du revenu important des agriculteurs, on va gagner l'affaire. Mais pour ça, il faut changer de politique aussi. Il faut faire attention quand on passe dans l'isoloir à pas se tromper de bulletin de vote.
Je vais très très rapide, je rajoute juste un chiffre par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai que normal, si on change le modèle agricole, c'est 50% d'agriculteurs en plus qu'il faudrait, entre 30 et 50% d'agriculteurs en plus. Donc bien sûr qu'on ne va pas forcer les gens. Des fois j'ai dit ça dans une émission de télé, on m'a regardé en disant vous n'allez pas forcer les gens à aller dans les champs. Non, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils aient envie, donc il faudrait qu'ils aient envie d'avoir, et déjà il faudrait qu'ils aient accès à la terre, ce qui n'est pas forcément simple aujourd'hui. Et l'autre point, et que je rejoins, et ça revient à ce qui a été donné tout à l'heure comme proposition, c'est que moi j'insiste beaucoup là-dessus aussi dans mes différentes enquêtes et aux ouvrages, c'est que c'est pas changer seulement le modèle agricole mais toute la chaîne alimentaire pour que le paysan puisse vivre de sa production et qu'on n'achète pas tous dans la grande distribution, sinon dans 10-20 ans on va se retrouver avec le même problème avec des paysans qui vont passer au bio mais qui pourront pas vivre de leur production. Donc bien sûr que c'est tout le système alimentaire qu'il faut changer, et c'est bien pour ça que ça bloque autant, notamment en France où on est les champions de la grande distribution quand même.
Je vais essayer de répondre rapidement sur la question locale que vous posez, du coup, là, parce que là, c'était des questions plus à une autre échelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis représentant des agriculteurs bio de la Corrèze vers l'extérieur, à la région et à l'échelle nationale. La question de comment on est impacté ou la question d'irrigation en Corrèze. En réalité, même s'il y a peu d'irrigation, on est tous impactés par la diminution de l'eau. Je donne un exemple souvent. Moi, je fais des myrtilles, je suis la marche en dessous du plateau de 1000 vaches. Jusqu'à il y a 5 ans, je n'avais pas de problème. C'est une plante qui a besoin d'eau un peu régulièrement dans l'été pour que les myrtilles mûrissent et grossissent. Eh bien, depuis 5 ans, à part cette année, j'ai du mal à avoir des myrtilles au mois d'août. C'est-à-dire qu'en juillet, il y en a. Et au mois d'août, elles sont sèches, je ne peux plus les vendre. Donc bon, moi ça va, je ne suis pas trop loin de la retraite, j'ai d'autres productions. Mais par exemple, mon fils s'installe, eh bien lui, il prévoit un système d'arrosage, d'irrigation sur les myrtilles et d'autres petites productions. Ça sera fait en prenant l'eau en excès et dans le respect de l'environnement, mais sauf que cet exemple-là, il va se généraliser. Et donc... Donc il va y en avoir des besoins d'irrigation, y compris en Corrèze. De même pour les vaches, par exemple, l'abreuvement, on a de plus en plus de problèmes à avoir de l'eau dans les sources. Et encore cette semaine, il était difficile. Il fallait amener de l'eau du réseau à des vaches. Voilà. Donc, s'il n'y a pas trop d'irrigation en Corrèze, il va y en avoir. Mais ça n'empêche que déjà maintenant, il faut qu'on bosse sur les pratiques de sobriété, ne pas laisser les champs couverts, mettre des couverts et plein d'autres choses. On parlait d'agroforesterie, même les pommiers, vous voyez, on change des pratiques. Avant, on avait des systèmes de taille ouverte pour qu'il y ait la lumière au milieu. Maintenant, on les referme pour que les pommes ne soient pas cramées par le soleil, qu'il y ait des feuilles au-dessus. Enfin, voilà, il y a des changements de pratiques de ce genre-là. Et ensuite, sur l'installation des jeunes, donc il y a des mauvaises nouvelles et il y en a des bonnes, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de jeunes qui cherchent à s'installer. Mais il y en a très peu sur l'élevage, donc c'est pour ça qu'on appelle à... C'est qu'il y a des appels nationaux au problème, mais c'est parce que le système d'élevage sont devenus très très grands du fait des aides non plafonnées de la PAC, et que du coup, ceux qui cherchent à s'installer, c'est sur des petites structures, et principalement maraîchage, petits fruits et plantes aromatiques, par exemple. Et ceux-là, ils sont sur des pratiques différentes sur la moitié en bio notamment, voilà. Et sur l'accompagnement, il y a le réseau bio dont je viens de parler, mais je vais citer les CIVAM par exemple, où c'est des systèmes d'échange entre agriculteurs, de visites de fermes croisées, et là ça permet de faire évoluer les pratiques en s'aidant les uns les autres.
C'était un extrait des échanges du public de Tulle sur le thème « L'eau, comment la partager ?» qui se tenait le 20 octobre 2023 avec Juliette Duquesne, journaliste, Benoît Biteau, députée européenne, et Amandine Dewel, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Une réalisation Bram FM, une radio associative en pays de Tulle.